Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange. Et j'aimerais continuer ce que j'ai commencé avec vous la fois d'avant, dimanche dernier. Formuler les vœux en cette nouvelle année, en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Formuler les vœux. Je vous avais entretenu la fois dernière dans le psaume 37. Et j'avais fait remarquer que ce psaume 137, Jésus, dans les évangiles, Jésus est l'auteur de la parole. Et lorsqu'il vient dans le monde, il manifeste au travers des paroles, des discours, des enseignements, que c'est lui qui était là déjà dans l'Ancien Testament. Et notamment, dans Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, Jésus redit un certain nombre de psaumes avec la force de l'auteur divin qu'il est. Et je vous ai fait remarquer que le psaume 37, d'une certaine façon, dans la bouche de Jésus, se retrouvait dans ses béatitudes. Et donc, je voudrais ce matin que nous puissions regarder ces béatitudes. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 13. Ce matin, je ferai cette exhortation sur les quatre premières béatitudes. Et la suite, nous le ferons un autre dimanche. Il me semble que nos vœux sont des gentillesses vis-à-vis de ceux que nous aimons et même de ceux que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'on appelle des civilités. Nous souhaitons des vœux, nous ne savons pas s'ils vont se réaliser ou pas. Nous n'avons aucune puissance pour qu'ils se réalisent dans la vie de l'autre. Mais par amour, par amitié, par courtoisie, nous souhaitons les vœux. Parfois de tout notre cœur. Parfois aussi, malheureusement, voilà. Comme c'est la période, on le dit vite fait. Jésus, dans ses béatitudes, nous aide à réfléchir. À réfléchir toujours sur le thème du bonheur. Du bonheur par rapport au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Et cette question du bonheur est importante. Surtout en ce début d'année. Surtout avec l'année que nous venons de vivre. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 13. Sinon, je lirai jusqu'au verset 12. Et je vous aiderai, je nous aiderai à comprendre les quatre premières béatitudes aujourd'hui. Je lis donc dans la version qui est la mienne ici. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Et prenant la parole, il les enseigna. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, qu'ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est une section importante dans le discours, dans l'enseignement que Jésus donne à cette période-là, non seulement aux disciples qui sont devant lui, mais c'est une parole que Jésus avait donnée pour qu'elle traverse les époques, n'est-ce pas? Le thème ici, heureux, signifie béni. Béni soit celui qui vit selon ce que Jésus va dire par la suite. Ces béatitudes enseignent que le bonheur résulte de la pratique de certaines vertus. Hein, les vertus, c'est des aptitudes, c'est des attitudes, c'est des qualités que nous développons. Ces vertus que Dieu approuve, bien sûr, n'est-ce pas? Ceux qui entrent dans le royaume des cieux, ceux qui appartiennent à Dieu, doivent développer dans leur temps présent ces attitudes, ces valeurs. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, tous ceux qui sont disciples de Jésus, sont invités à aspirer à ces vertus, à les manifester. Même si on est en progrès et que c'est ultimement lorsque nous serons dans le royaume éternel que ces vertus auront pleinement leur quintessence. N'empêche que maintenant, Jésus nous les donne pour que nous commencions à les vivre et à les vivre en y excellant. Le bonheur et la joie qu'elles procurent, ces vertus, s'enracinent profondément dans la parole de Dieu. Jésus montre que celui qui se dit chrétien, qui appartient au royaume des cieux, qui appartient au royaume de Dieu, ce royaume qui englobe tout ce qu'on peut entendre dans l'univers, rien n'échappe au royaume de Dieu. C'est lui le roi des rois, celui qui règne sur toutes choses. Même si c'est vrai que le péché a créé une rébellion, et cette rébellion, c'est dans celle-là que notre monde est aujourd'hui, parce que le monde ne connaît pas Dieu, le monde refuse Dieu, le monde refuse les valeurs de Dieu, et ça fait croire que Dieu ne règne pas. Ça fait croire que Dieu, c'est un petit Dieu qui ne sait pas manifester son autorité, loin de là, bien-aimé, loin de là. L'apôtre Pierre, lorsqu'on lui a posé cette question, il a dit, si Dieu tarde, mais Dieu ne tarde pas, mais si vous avez l'impression que Dieu tarde, c'est pour votre salut. C'est pour qu'un plus grand nombre ait encore une chance de se tourner vers Dieu. C'est pas parce que Dieu est un faible, loin de là. Et ceux qui ont traité Dieu de faible l'ont fait à leur dépens. Pendant leur vie présente ou après leur mort. Et Jésus dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu se manifeste pleinement dans le peuple de Dieu, dans ceux qui sont appelés et qui ont accepté de suivre la parole de Dieu. C'est ceux-là qui manifestent aujourd'hui le royaume. Mais le royaume sera manifesté pleinement au jour du retour du Seigneur. Les chrétiens doivent donc mener une vie conforme aux normes et aux valeurs de ce royaume auquel nous appartenons. Nous sommes concitoyens du royaume des cieux. Autant dans notre pays dans lequel nous vivons, nous sommes citoyens d'un État, nous vivons avec les valeurs et les règles d'un État, autant le royaume de Dieu a aussi ses règles et ses valeurs. Et ces vertus-là font partie des attitudes que Dieu veut voir dans ceux qui appartiennent à son royaume. Et il y a deux catégories. Il y a ces vertus qui sont notre relation avec Dieu. C'est les quatre premières vertus, les quatre premières béatitudes, verset 3, verset 4, verset 5 et verset 6. Et puis, la deuxième catégorie, c'est celle qui va du verset 7 au verset 10. Et celle-là, elle parle de notre relation avec notre prochain. Elle parle de notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Et c'est celle-là que nous verrons le dimanche suivant. Il y a un psaume qui est imprégné aussi dans ces béatitudes, c'est le psaume 1. Les deux premiers versets du psaume 1. Et le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Je reprends, psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, mais qui au contraire trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. voilà l'homme, voilà la femme qui est bénie de Dieu. Voici le jeune homme, voici la personne âgée, voici la personne adulte, voici l'enfant qui est béni de Dieu. Et il dit pour ce faire, quatre premières attitudes. La première attitude, c'est tu es béni si tu es pauvre. Parfois, on a compris qu'il s'agissait de la pauvreté matérielle. Non. Clairement, cette béatitude ne parle pas de la pauvreté matérielle. Elle parle de cette pauvreté qu'on appelle la pauvreté du cœur, la pauvreté de l'esprit. Elle parle du fait que l'homme doit se sentir pauvre devant Dieu, qu'il n'est pas aussi riche qu'il le croit devant Dieu. Qu'au-dedans de lui, ce qui est au-dedans de lui, ce n'est pas un trésor, c'est plus une pauvreté que son trésor vient de Dieu. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est dans notre nature humaine, ben nous sommes bien pitoyables. Parce que notre nature humaine est une nature déchue. Elle est bien pauvre. Elle a été appauvrie par le péché. Elle a été... L'apôtre Paul dit, pour lui c'est comme des rebuts, donc c'est comme quelque chose qui est à la poubelle. C'est une nature, je m'excuse de l'expression, parfois il faut donner des vraies expressions, des termes pour qu'on comprenne, c'est de la décomposition. Notre nature humaine sans Dieu est une nature décomposée. Malgré tout ce qu'on peut voir, que sans Dieu on a du progrès, on a de l'évolution, mais en fait, sans Dieu, on est un peu comme des zombies. Des gens qui marchent, mais qui n'ont pas d'âme. On est pauvres. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont totalement impuissants à cause du péché. Et que si Dieu laisse le bien dans le monde, si Dieu nous laisse le progrès, si Dieu nous laisse d'être quand même sans lui des gens de bien, ça montre encore que nous sommes bien pauvres. Parce que c'est lui qui permet que le bien subsiste, malgré le fait que nous sommes si mauvais. Donc le bien même que nous savons faire nous vient de lui. Heureux donc les hommes qui reconnaissent que sans Dieu, il n'y a pas de richesse intérieure. Parce que celle qu'on garde, celle avec laquelle on part dans l'éternité, c'est soit la pauvreté spirituelle, soit la richesse spirituelle. Parce que la pauvreté matérielle, ou la richesse matérielle, on la laisse ici. On ne part pas avec. Quel que soit tout ce qu'on peut mettre le dernier jour dans ta dernière demeure, tu ne pars pas avec. La preuve, c'est que des gens malencontreux viennent même te le voler dans le cimetière lorsque tes parents l'ont mis dans ta tombe. Combien de tombes n'ont pas été profanées pour voler ce qui est dedans? C'est là qu'on se rend compte que la personne ne va pas avec ces choses-là. Le prophète dit, je suis né nu, je partirai nu. Je suis venu sans rien, je partirai sans rien de matériel. Mais la seule chose avec laquelle je peux partir, c'est ma richesse spirituelle, ma relation avec Dieu. C'est celle-là. Alors, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est pour ceux-là. C'est ceux-là qui composent le royaume de Dieu. Des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes, des personnes âgées qui reconnaissent que Dieu est leur essentiel, est leur richesse, est leur trésor. Ensuite, il dit la deuxième attitude, la deuxième vertu, c'est heureux les affligés. On dit, oula, comment on peut être heureux si on est affligé? Comment on peut être heureux si on est triste? Comment on peut être heureux si on a du chagrin? C'est pas de cela qu'il parle. Jésus ne parle pas du chagrin ou de la peine que cause la perte d'un être cher. Non. Jésus parle de l'affliction que l'être humain ressent vis-à-vis du péché. Est-ce que il y a des faits? Il y a encore un père dans ce pays de la France, célébrait à sa façon à lui la disparition de sa fille qui a disparu il y a maintenant 17 ans. Enlevée un certain jour par un certain homme tordu qui a fait tout ce qu'il voulait à cette fille jusqu'au jour où on ne retrouve pas le corps de cette fille. Ça nous afflige, ce mal que quelqu'un soit capable à ce moment-là, d'enlever une jeune adolescente, de lui faire ce qu'il a envie de lui faire, et que les parents n'ont jamais su ce que c'est. C'est ça que Jésus dit. Si ce genre de choses vous afflige, vous êtes bienheureux. Mais si ça ne vous afflige plus, si le mal ne nous fait plus pleurer, ben nous sommes bien tristes. Et malheureusement, de moins en moins, ça devient tellement banal. Les faits divers deviennent tellement banals que finalement, moi, je n'accuse personne, mais je suis toujours intrigué de la façon dont dans les journaux télévisés ou radio, on passe des nouvelles tristes à la rubrique d'après. Ils t'annoncent que dans un pays, malheureusement, des gens ont pris des armes, ils ont tué une centaine de personnes, et la fois d'après, on va parler de Noël, on va parler de... Il y a tellement d'informations, c'est pas de leur faute. On passe de la tristesse. Mais Jésus dit, le croyant, le chrétien, il doit être affligé par le mal. Le mal ne doit jamais le laisser indifférent. Le péché fait du mal. Le péché te fait du mal à toi, fait du mal à l'autre, et ça doit te faire pleurer. Et nous, les évangéliques, nous disons, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est un mal devant Dieu et fait du mal à l'autre. Si je mens à mon épouse, c'est un petit mensonge, on va dire. Ça ne fait pas de mal. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de mentir à mon épouse? Ça veut dire que j'ai entamé quelque chose qui s'appelle le capital confiance. Donc j'ai pris sur moi le risque de semer dans la confiance de mon épouse, le doute. Sur le moment, c'est un petit mensonge. Mais c'est une graine que j'ai semée. Et c'est une mauvaise graine. Donc, en soi, aussi petite soit-elle, elle peut générer quelque chose d'énorme. Donc, autant m'abstenir de ce petit mensonge. Autant ne pas avoir cette façon de dire, c'est mon péché mignon. Ça n'existe pas de péché mignon. Je suis désolé. Péché, par définition, ne plaît pas à Dieu, il fait du mal à soi et à l'autre. Donc on ne peut pas dire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu est mignon, quelque chose qui me fait du mal est mignon, quelque chose qui fait du mal à mon prochain est mignon. Ça ne peut pas être mignon, ça. Voilà comment notre monde forge parfois des expressions qui elles-mêmes sont des horreurs et qui ne nous affligent plus. Heureux ceux qui sont affligés. Car le Seigneur dit, ces gens-là seront consolés. Parce que ceux qui ont en horreur le mal, Dieu leur donne la force de faire le bien et de vivre selon la volonté de Dieu. La troisième et l'avant-dernière, il dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur doux, heureux ceux qui sont pleins de douceur. Et Jésus le dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, car mon joug est léger, et je suis quelqu'un qui est doux de cœur. Hein? Il dit, certes, je suis Dieu, mais je suis un Dieu doux. Je suis pas le Dieu père fouettard. Oui, mais je suis le Dieu juste. Je juge aussi. Mais avant de juger, je donne toutes les possibilités pour que la personne n'arrive pas jusqu'à mon jugement. C'est en cela qu'il est doux. On dit parfois, nous, on donne 2-3 chances. Jésus, je sais pas combien de chances il nous donne de nous relever. Le psalmiste, il a pris un chiffre symbolique. Il dit 7 fois, le juste retombera, 7 fois, et le 7, c'est le chiffre complet. C'est-à-dire autant de fois que le juste tombe, jusqu'à ce qu'il ne soit pas sot pour rester dans sa bêtise, Dieu va l'aider. Jésus dit, je suis le doux. Et l'apôtre Pierre dira aux femmes, dans 1 Pierre chapitre 3, 4, recherchez non pas la beauté, que donne une parure extérieure, même si c'est utile. Mais il dit, c'est pas celle-là d'abord qui est votre beauté. Mais il parle aux femmes, mais il parle à tous les chrétiens, parce que c'est une parole pour nous tous. Il dit, cette parure extérieure, qui sont les cheveux, les bijoux, les toilettes élégantes, c'est ce qui est important du reste. Il dit, mais celle qui vous faut le plus, et à nous tous, parce qu'aujourd'hui, on est soit de parure, et les hommes et les femmes, la compétition est bien dans la société. Bref, Il dit la paroisselle intérieure. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. Il dit, c'est ça que Dieu cherche en nous. Des gens qui sont posés. Des gens qui sont doux. Des gens qui manipulent plus la douceur que la violence. Des gens qui font attention à leurs paroles, parce qu'une parole, quelqu'un dit, nos paroles sont parfois comme des armes qui sont armées et qui font plus mal que même des vraies armes. Parce qu'il dit une parole blessante, mais elle détruit. Mais elle détruit aussi bien qu'une arme pointée sur quelqu'un peut le tuer. Il dit, il y a des parents qui ont sorti des paroles qui ont tué des enfants. Et des expressions, excusez-moi du terme, qui sont pas fournies. Banal. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Comment on peut dire ça, son enfant? T'es tout en bête. Je m'excuse. T'es bête ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qu'on appelait à la légère, mais c'est pas possible de dire ça en son enfant. C'est pour ça que tu ne deviendras jamais rien dans ta vie. T'es qui, toi, pour lui dire ça? Même si tu es son parent. Quelle destinée tu donnes à un enfant quand tu dis ça? On a manipulé la violence dans la parole. Nous sommes une société. On est devenus des champions des paroles blessantes. Heureux les doux, ceux qui savent que manipuler la douceur. Imaginez-vous tout ce qu'on dit de Dieu. Si en longueur de journée, Dieu tuait tous ceux qui lui disent « Tu n'es pas Dieu, tu es un faux Dieu, tu n'existes pas. » Si Dieu tuait tous ces gens-là, tous les jours que quelqu'un dit « Dieu n'existe pas. » Franchement. Et Jésus dit « Prenez exemple sur le Père. Autant il est parfait, soyez parfait. » Si lui, il manipule la douceur, même s'il est juge, même s'il est juste. C'est pas dit ici que la colère n'est pas dans notre nature, mais c'est cette colère maîtrisée. David dit que la colère, quand elle n'est pas maîtrisée, elle n'accomplit jamais la justice de Dieu. Combien de gens amoureux ont fini par faire le geste fatal? De tuer celle qu'ils aimaient, de tuer celui qu'ils aimaient, par un accès de colère. On dit qu'il n'a pas prémédité, mais c'est involontaire, c'est un acte passionné. Tellement il aimait que sa colère, il n'a pas pu la maîtriser. Chapeau les humains. On aime quelqu'un ou on ne peut pas maîtriser sa colère ou on tue l'être aimé. Chapeau les humains. Nous sommes vraiment spéciaux. Heureux les doux. Ceux qui font attention à ces choses, dans leur attitude, dans leur façon de parler, dans leur rapport à Dieu, parce que Dieu est un Dieu doux, doux de cœur. Ceux qui se soumettent aussi, le doux c'est celui qui ne résiste pas à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui aime sans résister faire la volonté de Dieu. Hein? Vous savez, il y avait une expression que Dieu donnait au peuple d'Israël, il dit c'est un peuple au courant. Ça dit c'est un peuple. Quand tu leur dis « va à gauche », ils vont tout droit. C'est pas possible. Dis la direction, c'est à gauche. Mais comme ils ont le coup raide, ils ne peuvent pas tourner. Et ce coup raide, ils se sont donné eux-mêmes. Et si on n'a pas le cœur doux, parfois on est comme ça. Dieu dit « mais voilà ce que tu dois faire. » Tu dis « j'entends, mais je ne ferai pas. » Tu ne peux pas être doux en ce moment. Tu résistes. Que Dieu nous aide. Enfin, et pour terminer, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont un appétit spirituel pour les choses de Dieu. Le thème justice ici parle de tout ce que Dieu dit, Dieu fait, parce que Dieu est le juste par excellence. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de tout ce que Dieu dit. Le psaume 19 parle du fait que la loi de Dieu, c'est la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de tout ce que Dieu déclare juste. Et qui veulent le voir, et qui veulent l'accomplir dans leur vie, et qui veulent aider les autres à les accomplir dans leur vie. C'est ce désir profond d'être en bonne relation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes justifiés, non par nos œuvres, mais par l'action de Jésus-Christ. Dès le moment où nous avons pris conscience que nous sommes des pécheurs, et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et que Jésus est venu justement pour payer le prix, et que nous avons compris que si nous faisons cette démarche vis-à-vis de Jésus, il nous accorde sa justification, nous devenons justes. Et parce que nous sommes devenus justes, ben nous devons avoir faim et soif de cette justice. Cette justice de Dieu. Donc c'est d'abord ça. Et puis ensuite, le chrétien doit, c'est lui qui doit être juste. Essayer autant qu'il peut d'être juste dans tout ce qu'il fait. C'est une vertu. Être juste. Parfois, c'est pas évident. Hein? C'est pas simple. Parfois, c'est tellement imprégné de nos relations que c'est pas simple. Moi, je me souviens d'un épisode, je termine par là, où ma famille avait tort. Mais on n'était pas chrétiens en ce moment-là. Mais j'avais commencé à développer ces choses dans mon cœur. Je pense que Dieu s'en est servi plus tard. Et puis, on avait un litige avec les voisins. Bah, toute la famille voulait aller en découdre avec les voisins. Et puis, moi, j'ai eu la stupide idée de poser la question à tout le monde, même aux parents. Mais est-ce qu'on a vraiment raison? Oh là 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 là. Toi, t'es jamais avec la famille. On dit que la famille est accusée. Et toi, tu dis, est-ce qu'on a raison? C'est pas une question de raison. Quand la famille est accusée, tout le monde doit être avec. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça coûte souvent la justice. C'est pas forcément un effet de groupe. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est droit? C'est ça les familles chrétiennes. C'est ça les chrétiens. Est-ce que c'est juste? Devant Dieu. Est-ce que c'est droit? Voilà, bien-aimés. Ces quatre premières béatitudes pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Bonne année. Que ces quatre valeurs, que ces quatre attitudes, que ces quatre bénédictions qui sont susceptibles, si nous les vivons, de nous rendre heureux, que Dieu nous aide à les vivre. Que Dieu nous aide à vivre. Le bonheur n'est pas fondamentalement ou en premier lié à ce qu'on possède comme bien matériel. Non. Le bonheur, finalement, c'est ce que nous sommes, ces valeurs, ces vertus que Dieu nous donne de développer. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du royaume. Nous devons vivre comme des enfants du royaume. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. En cette année, Jésus dit, c'est Jésus qui l'a dit, nous sommes bénis, nous sommes heureux si nous vivons ces choses. Alors je nous souhaite de vivre ces choses dans nos relations de couple, dans nos relations de famille, dans nos relations d'église, dans nos relations dans la société, pour que cette année, vous savez, quand on a fait ses vœux au début de l'année 2020, nous ne savions pas ce qu'il va. On s'en doutait un peu parce qu'on commençait à entendre ce qui se passait en Chine, fin de l'année 2019. Mais on se disait, c'est loin, la Chine. Wuhan, c'est une ville qu'on ne connaissait même pas. De toutes les façons, les Chinois, ils sont spéciaux. Puis finalement, en l'espace d'un mois, le monde entier est écouté. Et là, c'était la cause. Bien-aimés, nous commençons une année. Si nous prenons les bonnes habitudes, si nous nous calons sur le bon plan de Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, le bonheur, la bénédiction de Dieu sera notre partage.